Vous écoutez Démo Pratique, le podcast des pratiques démocratiques, avec Nicolas Gassibi et William-Marie Patterson.
Bienvenue sur Démo Pratique pour la seconde partie de l'entretien que nous avons réalisé avec Michèle Stien, directrice de Coop Cité. Si vous ne l'avez pas encore fait, on vous recommande bien sûr d'aller d'abord écouter la première partie qu'on a publiée précédemment. Dans cette seconde partie, on va s'interroger sur ce que ça signifie un festival citoyen auto-organisé et la réalité derrière ce projet de démocratie locale. On abordera également nos questions signatures pour parler de démocratie, de fierté et de déception démocratique, de conseils concrets et de ressources à recommander. Bonne écoute à toutes et tous. Ça veut dire quoi, très concrètement, un festival auto-organisé par les citoyens ?
Qui dit auto-organisation veut dire on réunit des personnes et ces personnes, avec les compétences qu'elles ont, elles vont développer un projet en s'appuyant, en fait, compte sur leurs propres compétences. Donc, il n'y a pas normalement d'organisateur d'événements, comme on peut le voir, par exemple, je sais pas, n'importe quel festival, derrière, il y a une structure, une agence, voilà. Donc, bien sûr, il y avait nous derrière, on portait, en fait, contre le sujet. Mais à la base, on n'était pas des spécialistes de l'événementiel, c'était ça qui était intéressant. C'est-à-dire qu'on aidait à la structuration, et c'est ce qu'on fait toujours aujourd'hui. Donc, en fait, on lance une première réunion publique, donc les gens viennent. Dans cette réunion, chacun se présente, dit en fait compte qui il est, et va dire ce qu'il a envie d'apporter. Sa capacité de temps, sa capacité d'apport, le sens qu'il cherche en fait compte en faisant ça. Voilà, il y aurait plein de choses encore à dire, hein, bien sûr. Et assez rapidement, émerge, bien entendu, dans le groupe, des gens qui ont envie d'être dans certains groupes, dans d'autres. Donc, il y a 4 ou 5 groupes qui existent. Le groupe financement partenaire, le groupe... Donc, on a structuré... il faut quand même structurer. Donc, on a structuré ça. Et après, l'idée, c'est que dans cette auto-organisation, le citoyen s'investisse pleinement. Et la problématique qu'on rencontre, c'est le rapport au temps. Parce que quand on organise un événement, ça ne se fait pas juste 3 jours. C'est 1 an d'organisation avec de la régularité, un apport de création, à quel endroit j'ai envie d'être. Puis après, il y a la vie des personnes qui arrivent avec des gens qui séparent, qui quittent le territoire. Et en plus, ça s'ajoute une complexité, mais qui est aussi très riche. C'est qu'on a des services civiques, donc on recrute comme ça, qui travaillent à cette développement de encourager la participation citoyenne et développer l'accès à la culture. Et ces jeunes, on les met vraiment en pratique, c'est-à-dire eux aussi sont présents dans une auto-organisation, c'est-à-dire ils viennent d'apprendre des choses à l'école, mais là, ils vont rentrer dans un pilotage et ils vont être ceux qui vont piloter ce que les citoyens vont proposer pour que le rêve, le quartier rêvé émerge, en fait, quand c'est un peu ça derrière. Et le problème que nous rencontrons, c'est bien entendu la mobilisation dans le temps des citoyens. Par exemple, quand, lors du premier événement, la mairie était... J'avais discuté avec un élu de la mairie de Paris qui disait « Comment vous avez fait pour motiver 120 personnes pendant 3 mois, par exemple ?» Donc je disais « accueil, on mangeait ensemble. » Enfin voilà, il y avait un truc de cette dimension-là qui n'était pas juste, tu sais, comme le conseil de quartier, où voilà, il y avait une autre dimension. Mais on sait bien qu'il y a une perte. C'est-à-dire, la première année, on a eu 120 personnes. Ensuite, 50 se sont impliquées sur la création. Et à la fin, il y en avait 25. Donc, systématiquement, ça descend. Chaque année, on est obligé de jouer avec une auto-organisation qui est mouvante, qui joue avec des gens qui arrivent, des nouveaux, des anciens qui partent, qui disent « Non, j'ai plus envie. » Certains qui peuvent plus pour des raisons X ou Y. Et donc, c'est très organique. C'est-à-dire que, et pour ça, il faut une souplesse d'esprit, une souplesse d'organisation, qu'on a, s'il y en a qui sont intéressés, donc que nous, on a positionné en formation, donc on existe maintenant dans le catalogue de Coop Cité, une formation sur justement comment préparer cette notion d'auto-organisation sur un territoire à partir d'un lieu ou d'un événement, et comment on peut développer ça avec les forces et les faiblesses de cette auto-organisation. Et après, rien n'est parfait dans ce qu'on produit, mais on est en laboratoire, on expérimente.
Tu vois, c'est marrant parce que la mobilisation dans le temps long des citoyens, c'est un des sujets dont on parle beaucoup parmi les professionnels qui travaillent dans le champ de la participation citoyenne. Donc je pense que ça va faire écho avec les vécus que rencontrent beaucoup de ceux qui nous écoutent. Est-ce que de la même manière, tu as des petits trucs opérationnels que tu n'avais pas forcément anticipé et dont tu t'es rendu compte en organisant le festival, et d'en parler finalement, tu permettrais justement à quelqu'un qui veut faire la même chose d'y penser, de mieux se préparer. Un petit truc, un petit conseil, des choses auxquelles penser.
La première chose, je pense, qui est la plus importante, c'est de sentir qu'il ne faut pas avoir une idée fermée et préconçue dès le départ. C'est-à-dire que si tu crées, par exemple, les gens qui créent des événements classiques, ils ont une feuille de route, un rétro-planning, voilà, des choses extrêmement cadrées. Et on voit très bien la confrontation du citoyen qui veut de l'auto-organisation, qui ne rentre pas du tout, il n'aime pas du tout les rétro-planning. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Parce que justement, il n'est pas là par devoir, il est là par plaisir. Et donc, tu dois jouer entre le devoir organisationnel et le plaisir du citoyen. Donc, ça, je l'ai découvert en pratiquant. Donc, ça passe par développer des outils différents pour les différentes manières de capter le monde. Il y a des gens qui vont rentrer dans Trello, je ne sais pas quoi, dans des structurations, voilà. Et puis, on a aussi les problématiques intergénérationnelles. Dans, par exemple, les jeunes qui pilotent et ou qui sont dans le festival, ils ont 25 ans, donc les outils, voilà. Et puis, on a des personnes qui ont du temps, qui ont, elles, 70, 80. Donc, soit on a appris maintenant à essayer que ça s'apprivoise ensemble, donc on crée des binômes entre, voilà, pour que les jeunes approchent, voilà, et parce que ça, c'est un problème majeur. Comment travailler à auto-organiser quand il y a des outils qui ne peuvent pas être partageables parce que les gens n'y arrivent pas. Moi, la première, par exemple, je suis la meilleure pour les interrelations humaines. Je sais si je veux rentrer, mais j'ai presque comme si j'ai un blocage moi-même par rapport à la machine, tu vois. Et donc, eh ben, tu dois avancer avec ces blocages-là, sinon tu fais rien. Pour moi, c'est un point majeur, c'est trouver des outils, plusieurs modèles d'outils, si tu veux, qui peuvent être appréhendés par des jeunes différents. En parlant des réseaux sociaux, par exemple Facebook, pour les jeunes qui arrivent, là, qui ont 25 ans, c'est dépassé. Ceux qui ont 70 ans et qui sont un peu ouverts, ils sont sur Facebook. Ils ne sont pas encore sur Instagram, sur TikTok, sur tous ces réseaux-là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est savoir qu'on a une idée de départ, mais qui ne sera peut-être pas du tout la réalité de la fin, parce qu'il sera passé plein de choses. Ce n'est pas toujours tout rose. Hein. Parfois, il y a souvent des conflits, par exemple, dans les groupes. Moi, la première, parce qu'en fait, comme je suis au milieu, comme je connecte, en fin de compte, d'un côté l'entreprise qui soutient, qui pilote les services civiques et les citoyens, bah, de temps en temps, il y a des confrontations. Et particulièrement, d'ailleurs, souvent, c'est avec les problèmes avec la notion de communication. La manière dont on communique devient, à un moment donné, un problème et crée une friction, en fin de compte, dans l'élaboration. Mais si on est intelligent, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est que, bah, y a des conflits, on les regarde. Les enjeux de pouvoir sont importants hein, dans une création comme ça. Et dans ces enjeux de pouvoir, c'est de passer du pouvoir sur l'autre au pouvoir de faire. On est là pour faire ensemble. Pas pour dominer l'un ou l'autre. En tout cas, on essaye ça. Et moi, ça, c'est parti aussi en tant que médiatrice d'une rencontre avec un représentant Tupi Guarani qui s'appelle Cacavera Jécoupé et qui disait les problèmes quand on travaille en cercle, enfin en groupe, c'est souvent un cercle. Et si c'est les mêmes personnes, à un moment donné, les enjeux de pouvoir reviennent. Et lui, il parlait toujours de travailler sur une dimension, le cercle devienne un peu spirale, c'est-à-dire il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, il y a des nouveaux, les anciens, parce que dès qu'à un moment donné, on travaille ensemble avec toujours les mêmes personnes, les enjeux reviennent. Et ça, moi, je l'ai vu dans les groupes. Dès que, par exemple, il y a le changement d'une année à l'autre avec le festival, il y a une nouvelle personne qui arrive et chacun est obligé de se replacer, en fait, compte. Et ça, c'est, je pense, une expérience très intéressante.
Merci beaucoup, Michel, pour cette grosse première partie d'entretien. Je te propose qu'on passe désormais à nos questions signatures. Ce sont les questions qu'on pose à chacun de nos invités. La première question signature, comment définis-tu la démocratie ? Et est-ce que tu peux nous raconter une anecdote qui t'a particulièrement marqué, fait réfléchir, bouleversé ou conforté dans ta vision de la démocratie ?
Je crois que c'est Tocqueville, mais j'en suis plus sûre. En tout cas, donc je vais quand même. Je sais qu'il y avait une phrase qui était importante pour moi, qui était « La démocratie, c'est l'expérience de l'autre comme semblable, mais dans la différence. » Et je trouve que cette phrase, elle est très forte. Elle peut sembler complexe, presque même un peu poétique dans sa manière d'être construite, mais elle fait réfléchir aussi sur que, pour moi, la démocratie, elle est individuelle d'abord. Elle est en rapport avec soi, c'est-à-dire comment je suis moi-même en lien avec ma démocratie interne, j'ai envie de dire, sans être dans de la schizophrénie ou autre. On a des tempéraments ou des parties de nous, parfois, qui sont différentes, qui ont des besoins différents, on le sent, en fonction de la manière dont on se lève, voilà. Donc comment, déjà, je me regarde, moi, dans la démocratie par rapport à qui je suis. Alors, ça semble bizarre, hein, peut-être, mais vous comprendrez après avec l'exemple que je donnerai, l'exemple concret. Et ce point-là, il est intéressant, parce que si on accepte de vivre l'expérience de l'autre, si on accepte de se dire, ce que je vais dire est assez étonnant, peut-être, mais je suis habitant du 18e et puis je vais accepter de rencontrer un habitant du 17e qui va accepter de rencontrer un du 8e ou du 9e, ça semble complètement fou, mais c'est presque aussi fort que l'autre comme un étranger, qui n'est pas français, par exemple. Si on rentre dans la dimension très subtile, ça peut aller jusque-là. Et je trouvais que cette phrase, pour moi, elle est importante, c'est-à-dire accepter que l'autre est une expérience, qu'il est semblable parce qu'il est constitué comme nous, et que cette acceptation, en fin de compte, dans l'expérience, elle passe par la différence, par l'acceptation de cette différence. Et puis, il y avait un autre point aussi, je trouve important dans la démocratie. Parfois, on cherche à supprimer les inégalités. Et en réalité, ce qui, je pense, est important, c'est d'essayer de changer notre manière de percevoir ces inégalités. Parce que justement, sinon, c'est là où en fin de compte, il y a une fracture dans la société. Je ne sais pas si elle peut être un jour réparable, j'en sais rien, avec ce qui se passe en ce moment partout sur la planète. Mais je reste quasi sûre que ça passe d'abord par l'individu, dans sa transformation, que c'est le collectif extérieur qui change aussi l'individu. Enfin, il y a vraiment ce rapport individu-collectif qui, pour moi, est important dans la dimension démocratique, c'est-à-dire le regard sur soi-même. Et l'événement, un événement qui a conforté ça, c'est qu'on a co-organisé avec un ancien, il s'appelle Jean-Philippe Magnin, c'était l'ancien président de la région de Nantes, et on a fait un événement qui s'appelait Nouveau pouvoir, nouveau leader. Et ça durait 2 jours ou 3 jours. D'ailleurs, la maire de Nantes était venue. Et c'est très intéressant parce que moi, ça m'a vraiment touchée en me disant, un peu comme j'ai raconté tout à l'heure avec cette histoire de dans la même semaine, Apple Londres, des Tibétains et Sea Shepherd. Cet événement m'a touchée en profondeur parce que ce que je disais, cette notion de changer la dimension de son regard sur son propre leadership, où j'en suis dans mon leadership, et donc j'anime moi maintenant d'ailleurs des formations sur ce sujet, et ce leader intérieur, pas seulement le leader de celui qui mène une entreprise, mais plutôt comment moi je gère ma vie perso, dans ma vie de couple, dans ma vie personnelle. Est-ce que je suis démocratique avec moi-même déjà? Et comment ça peut changer ce regard au pouvoir? Et où justement, si tu veux, ce qu'on disait, ce pouvoir sûr qui passe au pouvoir de faire, il ne peut passer que parce qu'à un moment donné, il y a une espèce de... On avait lancé d'ailleurs, quand on a fait cet événement, on avait fait la feuille de route du nouveau leader, c'est-à-dire c'est toutes les questions qu'on doit se poser en fin de compte. Et pendant qu'on se pose des questions, de ce fait, on devient moins critique vis-à-vis de l'extérieur. Et on sait bien que la critique est nécessaire, mais quand elle est constructive, si on est dans de la critique, ce qui est un peu le champ aujourd'hui, quand on regarde un peu, enfin je ne regarde quasi plus la télévision, mais je veux dire, quand on voit un peu ce qui se passe un peu partout, c'est un peu ça, c'est-à-dire que la critique est devenue complètement destructive. Et moi, ça passe, je pense, par ce nouveau rapport au leadership intérieur, ce nouveau rapport au pouvoir, et donc ça passe un peu avec ce que je disais, c'est-à-dire comment on vit l'autre en termes d'expérience et comment on regarde l'inégalité avec peut-être une autre perception pour avoir une nouvelle vision du monde, pour trouver des nouveaux outils pour améliorer ça, quoi.
Seconde question signature, quelle serait ta plus grande fierté en matière de pratique démocratique et pourquoi? Et au contraire, quelle serait ta plus grande déception?
En fait, ce qui vient en déception, c'est cette dimension de... Il faut mettre beaucoup d'énergie pour pouvoir produire avec les collectivités publiques. J'ai vraiment envie de travailler avec eux. J'ai pas envie d'être là pour les casser, pour voilà. Et je me rends compte, c'est mon point de vue, hein, c'est juste ma part à moi de vision, c'est pas de prosélytisme de ma part. Finalement, je pense qu'il y a beaucoup de peur dans le monde politique. Et dans cette peur, il y a une espèce de forteresse qui s'est créée. Et dans cette forteresse, malheureusement, alors que je pense que c'est des personnes qui ont plein d'humanité, qui sont pas faire plein de choses, il y a une perte d'efficacité, mais énorme. Et par exemple, quand on a lancé le festival, moi j'ai bien dit, on ne remplace pas les MVAC, on ne remplace pas les conseils de quartier, on ne remplace pas ce que veut faire la mairie. Dans certaines mairies, il y avait ça dans l'idée. On vient rappeler qu'une SIC, elle peut allier le public et le privé. Faisons ensemble, stimulons-nous ensemble. Donc la prise de temps que va prendre les process, les changements, tu le sais très bien, à l'intérieur des mairies, les changements réguliers. Donc moi, je le vois avec les services civiques, par exemple, je suis obligée de m'adapter de manière constante. Ça ampute l'efficacité d'une démocratie. Et je trouve ça dommage. Et je lance un appel, hein. Moi, je suis... je le fais déjà, mais je vois bien quelle énergie il faut pour tirer, pour tracter. Et c'est vraiment dommage, parce que il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de confiance entre les élus, les citoyens. Et je le vois. On le voit. Et les élus se font aussi. Moi, je l'ai vu dans des conseils de quartier, des gens sortir leur mécontentement sur les élus et de manière totalement inappropriée. Enfin, en tout cas, dans la manière dont c'était fait. Donc ça, c'est ma déception. C'est de dire aujourd'hui, je ne peux qu'agir sur mon bout quand je suis ici. Je ne peux que dire, je continue à produire avec eux parce que je pense que ça a du sens. Mais... Ça démultiplie l'énergie. Donc là, c'est ce point,
Et une fierté ?
Le mot fierté, c'est pas un mot qui me parle. J'ai envie de dire que tous ces projets, le festival qui s'appelle maintenant, parce que je l'ai pas dit, j'ai pas tellement parlé du festival finalement, mais parce qu'aujourd'hui, maintenant, il s'appelle Mixité, Place Clichy. Cette fierté, c'est de dire que, je dirais pas une fierté, mais c'est le plaisir, j'ai envie de dire, c'est du plaisir. C'est qu'on en soit à la 4e édition, qu'une association qui s'appelle Les Amis de Clichy s'est créée. C'est pas simple chaque année. Mais quelle richesse il y a à la fin, parce que à la fois il y a eu il y a le cinéma, le théâtre, les librairies de Paris, on a créé des liens avec assez incroyables, même les mairies étaient assez étonnées de ce qu'on a pu faire assez rapidement, tout ça en partant de la valeur des citoyens habitants. Parce que j'ai oublié de dire, la Villa des Créateurs, c'est pas pour une villa d'artistes. La Villa des Créateurs, c'était l'idée de l'incubateur, c'était développer le processus de création de chacun. Que chacun accepte de reconnaître qu'il a un processus de création et que cette valeur-là, un territoire en a besoin. Et le festival, c'est à ça qu'il a réussi, avec ses forces et ses faiblesses. Donc ça, ça perdure. Je ne sais pas si ça perdurera 10 ans, mais ce n'est pas grave. Parce qu'en fin de compte, ça a semé des graines. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des citoyens, il y en a qui sont là depuis le début, depuis 4 ans, et des citoyens qui font des choses ensemble, produisent maintenant des choses ensemble. Et ça, c'est fantastique. Et puis, il y a des jeunes que j'ai rencontrés, comme peut-être tu auras l'occasion de l'interroger aussi, comme Léo Henriot, qui a été service civique, stagiaire, habitant du quartier, qui est maintenant président de l'association des Amis de la Place Clichy, et qui a envie justement d'une nouvelle démocratie, lui aussi. Et l'autre point, c'est que l'année dernière, on a fait un truc assez incroyable. Donc là, je peux dire que je suis fière de ça quand même. On avait eu l'idée, quand on a eu une place 4 arrondissements, on s'est dit « Waouh, ça serait super d'avoir les 4 maires ». Bah de dire aux quatre maires, venez fêter la place Clichy, c'est un territoire que vous partagez. Donc première année, certains ont dit on veut voir, donc voilà. Deuxième année, ça s'est pas fait, il y avait la création d'associations, c'était compliqué. Et puis l'année dernière, dans le cadre du festival, on fait aussi des parcours patrimoniaux. Et Patrick Rollo, donc est un spécialiste du patrimoine du quartier, avec Jean Grimaud, qui est aussi quelqu'un qui a fait pendant des années un événement collectif qui s'appelait du Rififi au Batignolles. Ils ont découvert que la statue du maréchal Moncey, dont personne ne connaissait le nom avant de s'intéresser au festival, n'avait jamais été inaugurée. Et là, ça donnait une idée un peu folle. On s'est dit, on va les inviter à l'inauguration, on va faire 154 ans plus tard une vraie fausse vraie inauguration, à la fois festive, non pas pour honorer un maréchal, mais pour honorer un homme qui avait défendu avec les citoyens français la France. Donc on est allé voir les maires. Bon, finalement, on devait en avoir 3 sur 4. On n'en a eu que 2 sur 4. On a eu le maire du 18e et le maire du 17e qui ont joué le jeu. La maire du 9e n'a pas pu pour des raisons personnelles et la maire du 8e ne se sentait pas concernée, peut-être plus éloignée, enfin voilà. Mais on a fait un événement incroyable, c'est-à-dire qu'on a réussi, en auto-organisation, je reviens là-dessus, avec des citoyens, à convier des maires qui ont joué le jeu. On a pris la photo, on a fait une photo. En plus, il y a un acteur du quartier qui s'appelle le studio Crisa Studio qui fait des photos en argentique. Donc, ils ont fait une photo à l'ancienne des maires. Ben, voilà. Donc, ça, c'était à la fois ludique, extrêmement presque important, parce que c'était un événement dit officiel. Il y a eu des jeunes de Polytechnique qui sont venus. Voilà. Et donc, ça faisait partie des espèces de petits germes rêvés qu'on avait eus à ce moment-là et qui ont abouti l'année dernière. Voilà.
Troisième question signature, Michel. Si quelqu'un exprime le souhait d'agir de manière plus démocratique dans sa vie professionnelle, dans sa vie associative, personnelle, quel est le conseil concret que tu lui donnerais ?
Alors, mon conseil concret, c'est d'être observateur de la réalité individuelle et collective, de ce qui se passe dans la réalité, dans le réel, donc dans sa vie perso, dans sa vie pro ou autre, sans être trop marqué par ses propres convictions, ni chercher à les imposer. Parce que ça je l'ai vu à l'intérieur de tous des groupes qu'on a formés pour créer la SIC, des groupes, le festival ou des projets avec la mairie. C'est qu'à un moment donné, la démocratie, c'est laisser un espace de liberté à l'autre d'avoir une conviction différente de la tienne. Donc si tu arrives avec un postulat qui est de dire « j'ai raison, c'est la vérité, je sais moi », évidemment, la confrontation ne peut venir que comme ça. Donc je ne dis pas qu'on n'a pas... Moi, je dis qu'on a des parts de vérité, voilà, qui peuvent s'associer. Donc le conseil, je reviens là-dessus, ça serait de dire « quand j'arrive à être en relation avec même une personne », si j'arrive avec une conviction, si tu veux, et une énergie de feu qui dit « voilà, c'est comme ça », et d'imposition, on revient sur le pouvoir sûr au lieu de pouvoir d'eux, eh bien évidemment, ça commence mal. Donc je dirais que peut-être ce conseil-là, il est très large, mais il est de se regarder soi en disant « quand j'arrive dans une relation avec l'autre, on revient sur l'expérience de l'autre, j'arrive comment ? J'arrive ouvert à écouter l'autre ou j'arrive Ou par exemple, je n'ai même pas le temps, ça m'arrive aussi ça, hein, de le faire, j'ai pas même le temps d'écouter l'autre que je suis déjà en train de préparer ma question. Et parfois je me décale, je me dis mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je me le dis moi-même. Et parce que c'est des mécanismes très anciens, construits, je pense, de notre éducation, voilà, et que eh ben, c'est la partie la plus difficile. Arriver avec sa part de vérité, ses idées, sans trop les matraquer l'autre en fait.
Et enfin, Michel, je te pose la dernière question signature. Est-ce que tu as une ressource, par exemple un livre, un documentaire, un site internet ou autre, à conseiller à nos auditeurs et à nos auditrices curieux qui veulent en apprendre davantage sur la démocratie, sur l'économie coopérative ou sur la citoyenneté en général ?
Bah, votre podcast, déjà. Je pense que c'est une ressource. Ça, c'est le premier point. Ensuite, moi, ce qui m'a inspirée, hein, c'est mes inspirations, donc ça remonte étonnamment au passé. Les exercices des Grecs sur la démocratie, on le sait, sont quand même extrêmement importants. Donc, Périclès a été un acteur majeur parce que c'était aussi un architecte qui a travaillé à la construction de la Grèce. Et donc, en travaillant à la construction de la Grèce, il a fait quelque chose que je trouvais très intéressant, c'est qu'il a mêlé les arts. Dans sa construction d'architecte, il a mêlé philosophie, art, tout ce qui constitue une société. Et ça, c'est intéressant parce que, justement, la démocratie, elle peut retrouver peut-être son angle de... un nouvel angle pratique et sincère. C'est le mot qui vient, en fait, qu'on espèce de démocratie sincère. Tu vois, qu'il n'y a pas de peur, il y a de la confiance. Et il a participé à ça, parce que je reviens sur ce que j'ai déjà tout à l'heure, la démocratie est un lieu où aucune expression n'est perdue. Donc, il incluait dans sa programmation d'organisation de cité de mêler tout ça. D'ailleurs, Copcité est né aussi de ça, de l'idée de dire, bah, on peut faire un marché des créateurs, on peut avoir une conférence avec un philosophe, on peut, voilà, on peut avoir des maths, des sciences. Et c'est en croisant ça que tout d'un coup, le sens revient et la démocratie, elle s'appuie sur ce sens-là. Or, lui, il a construit ça comme ça, Périclès. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent aller jeter un coup d'œil là-dessus. Allez lire Périclès. Platon, parce que c'est très intéressant, c'est la partie... la caverne, l'allégorie de la caverne qui dit sortir les gens de la caverne un par un, parce que s'ils sortent, s'il y a plusieurs qui sortent, ça se passe mal. Et moi, je vais citer juste un exemple d'un de mes profs de médiation quand j'étais en formation en médiation civile. Il disait, par exemple, quand on est médiateur et qu'on va, on a en face de nous des syndicalistes qui sont très en colère, si on ne connaît pas notre point fragile, c'est-à-dire si on, en tant qu'homme hein, ou femme, si on ne connaît pas notre point fragile, intuitivement, le groupe, il sait comment, en fin de compte, déstabiliser le médiateur lui-même. Alors qu'à partir du moment où tu sais quelles sont tes fragilités, tes points faibles, tu les sais. C'est pas dit que tu vas les régler, mais tu les connais. Eh bien, tu pourras de manière beaucoup plus intelligente, si tu veux, faire face, en fin de compte, à des oppositions. Donc, Platon, il a cette dimension qui dit qu'il faut sortir un par un les personnes. Donc, on revient sur une transformation individuelle des personnes pour qu'elles intègrent un collectif conscient. C'est-à-dire, si un collectif s'est fêlé de plein d'habitants, de citoyens qui ont leur niveau de conscience avec leur part de vérité, leur vision du monde, qu'il faut confronter. Mais on peut confronter sans être, sans détruire, parce que c'est ça pour moi derrière. Et le dernier point, eh ben c'est Tocqueville. Tocqueville, je pense que c'est assez incroyable quand on lit tout ce qu'il a écrit. Il inspire encore beaucoup de gens aujourd'hui. Et je crois que, si je me souviens bien, il disait, c'est lui qui a dit ça aussi, c'est l'expérience du pouvoir qui permet à une société de s'organiser, de développer une forme d'agir dans la cité sans chercher à exercer le pouvoir. Et ça, c'est hyper important. Comment agir dans la cité sans exercer le pouvoir ? En tout cas, sur l'autre. Mais le pouvoir de faire, je reviens toujours là-dessus. S'il y a aussi un, et je terminerai là-dessus, j'ai rencontré, ça a été un moment aussi très fort, j'ai rencontré l'artiste et toute son équipe à Turin qui s'appelle Pistoletto, qui a créé un lieu qui s'appelle la Città dell'Arte. Et lui, il a lancé un courant très intéressant qu'il appelle la démopraxie. Donc c'est un artiste reconnu hein, qui expose au Louvre, voilà. Et lui, il a restauré un lieu, une ancienne usine incroyable, donc je suis allée à Gênes les rencontrer. Et pareil, il utilise l'art comme un... dans sa démarche, il appelle ça le troisième paradis. Et il dit, il y a le jeu, il y a le nous, et il y a le troisième paradis qui est ce qui relie le jeu au nous. Et donc lui, il a une vraie démarche démocratique avec cette dimension de démopraxie. Ils ont un journal, ils ont des actions extrêmement concrètes, ils ont des bureaux qui font réfléchir sur la mode, l'environnement. Tout ça, c'est des sources intéressantes. Et je clôturerai là-dessus. Moi, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on fait une proposition là en association avec la Maison de l'Europe. On a développé l'idée d'un grand débat sur ce qu'on appelle la démocratie créative. C'est quoi la démocratie créative ? C'est que pendant le festival, on était en contact avec le programme de l'ONU sur les 17 objectifs de développement durable et on s'est rendu compte que la culture n'était pas un objectif en tant que tel. Elle était en transversal. Et nous, on disait, mais la culture et l'art, c'est un des moyens incroyables de développer une dimension, un sens démocratique, en fin de compte. On a lancé l'idée, donc s'il y en a qui écoutent et qui ont envie, on a lancé un concours autour de cette démocratie créative, de l'idée de créer un 18e objectif de développement durable dans le 18e arrondissement. On fait un jeu de mots. Et on lance un grand débat qui a lieu le 18 septembre à la Maison de l'Europe sur ce sujet de cette démocratie créative qui part du local, qui part de chaque être, en fin de compte, dans la reconnaissance de sa valeur, de sa création. Comment ça peut redonner du sens, refaire du lien avec nos élus, refaire du lien avec une société. Peut-être l'art et la culture peuvent aider à ça. Donc moi, si je pouvais, je dirais au prochain ministre de la Culture de réfléchir à cette dimension de démocratie créative et d'inviter tous les citoyens parisiens et de Navarre et de France à développer cette dimension-là pour redonner du sens. Et je trouve ça extrêmement important aujourd'hui. C'est un virage de notre société, de notre humanité, j'ai envie de dire, de réfléchir en profondeur à ce sujet. Merci en tout cas.
Merci à toi surtout de nous avoir accueillis à la Villa des Créateurs.
Ouais, merci, à bientôt.